Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle petite série. En fait, on l'a en quelque sorte déjà démarré il y a 2 semaines. On a médité ensemble avec David Niblack le début de l'évangile de Jean. Mais on va dire, on avait médité les 18 premiers versets qui sont un petit peu un prologue à tout le reste de l'évangile. Donc, ils sont un petit peu hors catégorie. On peut facilement extraire les 18 premiers versets et puis les étudier pour eux-mêmes. Et maintenant, on peut dire qu'on, en quelque sorte, on entre à partir du verset 19 dans le cœur du texte, dans le corps un petit peu de la lettre, ce que Jean veut vraiment nous dire. C'est un petit peu comme si on avait lu le quatrième de couverture. Vous savez, le quatrième de couverture, c'est ce qu'on a au dos des livres, hein, qui nous résume un petit peu le livre. Puis maintenant, voilà, on commence le chapitre 1. Puis on va avoir une petite série dans les 4 premiers chapitres de l'évangile de Jean, parce que c'est ça qui forme un peu le premier tronçon, le premier segment de l'évangile de Jean, en 5 prédications. Et puis il y a un petit peu un thème qui unifie ces 4 premiers chapitres. Dans ces 4 premiers chapitres, Jean nous montre que Jésus-Christ amène une rupture avec la tradition, un changement, quelque chose de nouveau. Bien sûr, par bien des aspects, Jésus s'inscrit dans la continuité de l'histoire. Il vient bâtir sur ce qui avait été fait par avant. Mais dans ces chapitres-là, Jean met vraiment l'accent sur la rupture, sur la nouveauté. Jésus amène quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y avait avant lui. Un tout petit mot par rapport à l'évangile de Jean dans son ensemble. Pourquoi est-ce que Jean écrit son évangile? On se pose souvent la question pourquoi les auteurs bibliques ont écrit les écrits qu'ils ont voulu nous transmettre. La bonne nouvelle, c'est que Jean, il nous donne la réponse, noir sur blanc. À la fin de son évangile, il nous dit: Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de Jean est clair, il est double, qu'on puisse comprendre qui est Jésus et qu'en comprenant qui est Jésus, nous recevions la vie en son nom. Ce matin, on va étudier, on va méditer ensemble les premiers versets de cette section, la fin du chapitre 1, les versets 19 à 51. Et comme titre à cette section, j'ai juste mis ceci: transition. On a, de manière hyper claire ici, l'évocation d'une transition qui se manifeste sur le plan local, si je peux dire, comme une transition entre Jean-Baptiste et Jésus, mais sur le plan du grand plan de Dieu, c'est une transition entre une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et ce que Jean essaye de nous dire, parce ce qu'il raconte là dans ce texte, c'est voilà, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et Jésus est venu apporter quelque chose de nouveau qui va démarrer. Je vais lire donc le texte dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 19. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher dans votre Bible. Sinon, vous pouvez lire directement le texte à l'écran. Je lis donc Jean, chapitre 1, à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ?» Oups, pardon. « Moi, dit-il, Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'entrée d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Une transition. Par plusieurs éléments, Jean nous montre ici une transition. Et j'aimerais qu'on regarde le texte maintenant d'un seul regard. Le voici. Vous ne pouvez peut-être pas très bien lire ce qui est écrit, parce que c'est écrit petit, mais c'est nécessaire. Vous allez comprendre par la suite, c'est nécessaire qu'on puisse le voir d'un seul regard. Parce que Jean a structuré son texte pour nous montrer quelque chose. Et il nous donne des éléments hyper nets, hyper clairs, pour nous montrer comment son développement se déroule. En particulier, il va nous montrer des marqueurs chronologique, des marqueurs temporels. J'aimerais vous les montrer. Verset 29, il nous dit « le lendemain ». Verset 35, il nous dit « le lendemain ». Verset 43, il nous dit encore « le lendemain ». Vous voyez ? En fait, c'est des faits qui se déroulent sur 4 journées consécutives, en tout cas 4 moments distincts. et quatre un petit peu scénettes qui chacune vont dans le même sens. Enfin, scénettes, quatre scènes, on pourrait dire, qui chacune vont dans le même sens, qui nous montrent un aspect de cette transition qui est en train de se jouer sur la scène de l'histoire. On va voir une après l'autre, chacune de ces quatre scènes, mais simplement pour les identifier les unes par rapport aux autres, le plus simple, c'est de parler des personnes qui se rencontrent et qui discutent dans ces quatre scènes. Dans la première scène, on a Jean-Baptiste et une délégation de prêtres et de lévites venus de Jérusalem. Dans la deuxième, on a une discussion entre Jésus et Jean-Baptiste. Dans le troisième jour, on a Jésus, André, Pierre et un autre disciple qui n'est pas nommé. Et puis le dernier jour, on a Jésus, Philippe et Nathanaël. Et on va essayer de maintenant passer au travers de ces quatre scènes pour voir ce qui nous est dit dans chacun de ces événements. Premièrement, Jean-Baptiste et la délégation lévite. Donc Jean-Baptiste était manifestement assez populaire, suffisamment populaire pour que de Jérusalem, donc Jean-Baptiste baptisait pas très loin de Jérusalem, mais il était suffisamment populaire pour que des prêtres et des lévites, des responsables à Jérusalem, entendent parler de son ministère et envoient une délégation auprès de lui pour lui poser des questions, pour savoir surtout ce qui les intéresse, c'est de savoir, mais qui es-tu ? Et ils vont lui poser quatre questions. Premièrement, ils lui demandent, qui es-tu ? Et Jean-Baptiste leur répond, sans restriction, moi, je ne suis pas le Messie. Il faut qu'on fasse un petit saut temporel là pour comprendre comment réfléchissait, comment pensait le juif du premier siècle. Nous, on est bien après, on a un regard peut-être différent sur ces événements, mais il faut qu'on se mette un petit peu à leur place. Comment était un peu structurée la vision du monde, la pensée d'un juif du premier siècle? Et on pourrait dire beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a deux éléments très forts. Premièrement, le juif du premier siècle était formé, pétri, on pourrait dire, dans une connaissance très fine de l'Ancien Testament. Les jeunes garçons, surtout, étaient formés. Ils allaient à la synagogue pour apprendre à lire et ils apprenaient à lire dans les textes de l'Ancien Testament. Il y avait aussi des fêtes tout au long de l'année dans lesquelles la lecture des textes de l'Ancien Testament avait une place centrale. Et les Juifs avaient vraiment l'habitude même de mémoriser par cœur, de connaître très bien, même pas seulement les prêtres ou pas seulement les lévites, mais tous les Juifs avaient vraiment cette habitude de connaître très très bien les textes de l'Ancien Testament. Ça, c'est un premier élément qu'on doit noter. Et c'est important, parce qu'il y a de nombreuses allusions à l'Ancien Testament ici, qui peut-être pour nous passent un petit peu inaperçues, mais qui faisaient tilt dans l'esprit des lecteurs de Jean à l'époque. Ils se disaient, ah oui, ça fait référence à tel passage, ça fait référence à tel passage. L'autre élément fort dans la pensée des Juifs du premier siècle, c'était une attente messianique. Les Juifs attendaient le Messie. Ils voulaient vraiment cela de manière très forte à cause de plusieurs choses, mais en particulier à cause du fait que c'était annoncé par les prophètes et à cause du fait qu'il y avait des envahisseurs, les Romains, qui étaient là. Et on attendait un libérateur qui puisse mettre dehors cette puissance romaine. Donc, cette délégation juive arrive, elle lui demande, qui es-tu ? Bien sûr, leur question, en fait, derrière la question qui es-tu, c'est, est-ce que c'est toi qu'on attend ? Est-ce que c'est toi le Messie ? Et Jean leur répond tout de suite, sans hésiter, sans restriction, moi, je ne suis pas le Messie. Deuxième question, mais alors est-ce que tu es Élie ? Là aussi, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il lui demande, est-ce que tu es Élie ? Il faut remonter quelques siècles en arrière, il faut aller à rebours dans votre Bible jusqu'à 2 Rois, chapitre 2, où on voit le moment de la mort, ou en tout cas de l'enlèvement d'Élie. Élie, c'était un grand prophète, plusieurs siècles avant Jésus. Et Élie, au lieu de passer par la mort, a été enlevé sur un char de feu par Dieu lui-même. Et puis, bien après Élie, il y a un autre prophète, le prophète Malachie, qui écrit le dernier texte qu'on a dans l'Ancien Testament. Et il termine son texte en promettant, en annonçant la venue, le retour d'Élie. Élie qui allait faire ramener le cœur des pères, enfin, le cœur des enfants vers les pères. Élie qui allait justement un petit peu en quelque sorte être le précurseur du Messie qui allait arriver. Donc on comprend pourquoi il pose cette question, mais est-ce que tu es Élie ? Jean-Baptiste leur dit non, c'est pas moi. Alors on peut être un petit peu surpris par la réponse de Jean-Baptiste, parce que si vous avez déjà lu les évangiles, vous vous souvenez peut-être que quand un ange vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, l'ange annonce qu'il sera celui sur qui repose l'esprit d'Élie. Et quand on demande à Jésus, dans Matthieu chapitre 11, qui est Jean-Baptiste, il dit « c'est lui le nouvel Élie ». Or, ici, Jean-Baptiste dit « non, c'est pas moi le nouvel Élie ». Vous allez dire « mais comment c'est possible ?» En fait, les Lévites attendaient, enfin les Lévites et les prêtres ici, par leurs questions, ils attendent vraiment Élie, le personnage Élie qui revient. Alors que Malachie ne promet pas le retour d'Élie en chair et en os, mais celui qui aura justement cet esprit d'Élie et qui va faire l'œuvre qui avait été annoncée. Et en ce sens-là, Jean-Baptiste est ce nouvel Élie, même si à ce moment-là, il déclare qu'il n'est pas Élie, il n'est pas celui que les Lévites et les prophètes attendaient. Troisième question. Es-tu le prophète ? Là aussi, Ancien Testament, ça c'était encore bien avant tout ce qu'on a vu jusqu'ici, bien avant Malachie, bien avant Élie. C'était à l'époque de Moïse, Deutéronome chapitre 18. Dieu avait annoncé, c'est un texte de loi qui parle de l'instauration des Lévites, justement des prêtres et des Lévites. Dieu avait annoncé la venue d'un prophète semblable à Moïse qui allait révéler la volonté de Dieu. Donc, es-tu le prophète ? Non, c'est pas moi qui suis le prophète, dit Jean. Mais alors, tu es qui finalement ? Parce que nous, on nous a envoyés comme délégation pour savoir qui tu es. Alors, qui dis-tu que tu es ? Et là, il fait cette réponse qui peut nous paraître mystérieuse, mais qui a un poids immense. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. J'aimerais qu'on essaie de sentir ensemble l'aspect massif de cette affirmation. Si vous avez lu le prophète Ésaïe, c'est un long texte qui est dans l'Ancien Testament, à peu près 700 ans avant, écrit à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Il y a 66 chapitres dans le prophète Ésaïe. Et il y a comme une rupture entre le chapitre 39 et le chapitre 40. En fait, Ésaïe annonce la déportation du peuple juif à Babylone, le jugement de Dieu à cause de l'éloignement de Dieu du peuple par rapport à Dieu, la désobéissance du peuple. Puis tout à la fin, si vous lisez la fin du chapitre 39, Élie dit, ben voilà, il y a eu des espions babyloniens qui sont venus, le roi juif à Jérusalem leur a montré toutes les défenses, tout le trésor, toutes ces choses-là, il s'est fait complètement avoir. Et puis Élie dit, ben voilà, il va y avoir, non pas Élie, Ésaïe dit, il va y avoir le jugement, il va y avoir maintenant la déportation, c'est terminé. Puis tout à coup, on passe au chapitre 40 avec les mots « consolez, consolez mon peuple ». C'est comme si Ésaïe parlait maintenant de l'avenir, de quelque chose d'après la déportation. Et puis après, les chapitres 40 à 66 nous parlent de ce Messie attendu. Et j'aimerais vous les lire parce que je trouve ça saisissant. Les premiers mots, enfin, la rupture est nette quand on lit le texte, et les premiers mots qu'Ésaïe écrit au chapitre 40, c'est ceci. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Le peuple juif attendait la déportation et Ésaïe fait une promesse. Derrière la déportation, il y aura la consolation. Et la consolation sera annoncée par une voix qui crie dans le désert d'aplanir le sentier de Dieu. Donc quand Ésaïe dit ces paroles aux Lévites, il est en train de dire ce qu'Ésaïe annonce entre Ésaïe 40 et Ésaïe 66, c'est moi qui suis en train de le préparer. Je suis en train de préparer la route, le chemin d'accès pour que Dieu entre dans sa création. On peut lire ça rapidement, mais je pense que vraiment les Lévites étaient secoués par ce que Jean leur disait à ce moment-là. Jean-Baptiste et la délégation Lévite. J'essaie de résumer en quelques mots, qu'est-ce que Jean révèle ici ? Il nous dit que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit que moi je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Et puis on verra un peu plus loin au chapitre 3, hein, quand on étudiera ça, qu'il dit qu'il faut que Jésus croisse et que je diminue. Il dit que lui, il est juste la voix qui annonce qu'on doit préparer le terrain à la venue de Dieu. Mais Jésus est celui qui est vraiment Dieu, qui est la présence de Dieu dans ce monde. Deuxième point, donc le lendemain, Jésus arrive. Et là, Jean, tout de suite, il va avoir cette parole incroyable. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean, il a reçu une révélation de la part de Dieu. Il le dit après. Il le dit, il a vu l'Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Et Dieu lui avait dit au préalable que quand il verrait ça, ça signifie que c'est celui qui vient baptiser d'esprit, baptiser du Saint-Esprit, au verset 33. Donc Jean voit Jésus arriver et il réalise qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est une phrase qui peut être surprenante. Hein. Jésus enlève le péché. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. De nouveau, il faut qu'on aille dans l'Ancien Testament. Et c'était extrêmement clair pour les premiers lecteurs de l'évangile de Jean. Il y a une référence à un texte de nouveau du prophète Ésaïe. Je vous lis juste quelques versets. Hein. « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, autrement dit sur Jésus, hein, sur ce Messie qu'on attendait, il a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Jésus était annoncé par Ésaïe comme cet agneau qui allait prendre sur lui nos fautes. Cet agneau qui enlève le péché du monde. Donc on voit que ça se précise. Hein. Jean avait juste dit, Jésus, il est plus grand que moi. Maintenant, Jean, il nous dit que Jésus est celui qui enlève, qui ôte le péché du monde. Et puis, il y a cette deuxième affirmation spectaculaire. Hein. Il est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Il faut dire un mot à ce sujet, parce que nous, le mot baptiser, dans notre langue, c'est un mot qui appartient exclusivement au vocabulaire religieux. Pour nous, quand on pense baptême, on pense à un truc d'église, quoi. Mais le mot baptiser pour le grec, ça veut dire en fait immerger. Ça veut dire que tu es plongé totalement. Donc en fait, quand il est dit qu'il baptisera du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il nous immergera, il nous plongera dans le Saint-Esprit. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que y a aussi des textes prophétiques là derrière, mais en fait, Jésus est celui qui vient apporter l'abondance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est actif déjà dans l'Ancien Testament, mais Jésus vraiment vient le donner à ses, à ses frères et sœurs de manière abondante, de manière totale. Ce n'est pas juste une petite dose, c'est un plongeon complet. Il y a vraiment comme un raz-de-marée du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu avec la Nouvelle Alliance. Le lendemain, on a ces deux disciples et on voit un petit peu la transition s'articuler là même au niveau des disciples, parce qu'il y a deux disciples de Jean qui commencent à suivre Jésus. Il n'est pas dit qu'ils deviennent vraiment des disciples de Jésus, mais ils vont commencer à suivre Jésus. C'est donc André et un autre disciple qui vont commencer à suivre Jésus, qui lui posent la question « Où est-ce que tu habites ?» parce qu'ils ont envie d'aller chez lui, de discuter avec lui, de savoir un petit peu qui il est. Et puis il va y avoir ensuite Simon, Pierre, qui va s'ajouter à ce petit groupe. Ce que je trouve extrêmement surprenant dans ce passage-là, c'est que Jésus bouleverse des vies. Jean dit simplement « Voici l'agneau de Dieu ». Il y a ses deux disciples qui sont avec lui et ils commencent à le suivre. Ils lui disent « Mais est-ce qu'on peut venir chez toi? Est-ce qu'on peut discuter avec toi ?» Et puis Jésus voit Pierre arriver, puis vous avez vu cette parole qui lui dit « Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre ». Jésus trouble des vies. Les gens ne sont pas insensibles. Ils changent de comportement et de suiveurs de Jean. Ils deviennent des suiveurs de Jésus. Ils comprennent qui est Jésus. Et ça va jusqu'à ça va devenir même très profond, parce que Jésus va même changer le nom d'un des disciples, Simon, qui va devenir Céphas, Pierre, en tant que disciple de Jésus. Donc on voit, en une seule phrase, j'ai noté ça, hein, Jésus bouleverse des vies. On peut aussi le noter par rapport à Philippe. Philippe, il est dans le texte d'après, mais on voit aussi par rapport à Philippe, hein, il y a quelque chose d'un petit peu surhumain. Hein. Il rencontre Philippe et lui dit, suis-moi. Et ça y est, Philippe commence à suivre Jésus. On voit que la rencontre avec Jésus ne laisse pas les gens insensibles, mais ils sont bouleversés par ça. Et puis, dernier jour, dernier des quatre jours, Jésus, Philippe et Nathanaël. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Il y a donc Philippe qui a été rencontré, hein, parce qu'en fait, Jésus est allé probablement à Bethsaïda. Jésus est probablement allé à Bethsaïda parce que c'était la ville d'André de Pierre, hein, c'est ce qui nous est dit au verset 44. Et là, Jésus rencontre Nathanaël. Et ils lui disent, hein, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Bon, cette remarque, hein, de Nathanaël qui dit « Mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il y avait manifestement un certain mépris. On sait par après, c'est je crois au chapitre 21 de Jean, que Nathanaël était, lui, de la ville de Cana. Donc, c'est deux villages qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. Et manifestement, il y avait du mépris entre ces deux villes ou entre ces deux villages. Et il dit ça, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon qui vienne de Nazareth? Et puis, Jésus rencontre Nathanaël et dit, mais voilà bien un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse. Il ne faudrait pas mal comprendre ce que Jésus dit. En fait, c'est plutôt une éloge que Jésus fait par rapport à Nathanaël ici. Ce n'est pas que qu'il a un problème mental ou quelque chose comme ça. C'est plutôt, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, en fait. Dans certaines traductions, il y a le mot fraude. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse. Il lui dit, mais on ne se connaît pas. Et là, Jésus qui lui révèle qu'il était sous le figuier. Et sur cette simple révélation, Nathanaël qui répond, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus qui conclut par une certaine surprise. Hein. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est un des titres que Jésus utilise pour parler de lui-même. Ça vient de l'Ancien Testament aussi, de Daniel chapitre 7. Qu'est-ce que ça signifie, le ciel ouvert ? C'est encore un des grands thèmes qu'on va voir tout au long de l'évangile de Jean. Jésus révèle le Père. Il est celui, en quelque sorte, qui ouvre le ciel, qui permet d'accéder à Dieu. Vous verrez, il n'y a pas un moment où les disciples ont vu le ciel, enfin, ils ont eu une espèce de vision, ils ont vu le ciel ouvert, ils ont vu les anges monter et descendre auprès de Dieu. Mais ça signifie que, en fait, il est celui qui vient révéler Dieu. Il est celui qui vient montrer Dieu. Il est celui qui va pouvoir ouvrir le ciel, ouvrir l'accès à la connaissance et à la présence de Dieu. Donc voilà, quatre épisodes qui nous révèlent quatre choses différentes. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus enlève le péché. Jésus bouleverse des vies. Il change des trajectoires de vie en quelque sorte. Et puis, Jésus révèle le Père. Voilà un petit peu ce qui nous est dit dans ce chapitre, enfin dans ce texte, cette deuxième moitié de Jean chapitre 1. Il faut maintenant qu'on arrive à nous. Qu'est-ce que ça nous dit à nous ? Et je crois que c'est vrai, on n'est pas André, on n'est pas Nathanaël, on n'est pas Philippe, on n'est pas Pierre, on n'est pas Jean-Baptiste. Du coup, on doit se poser la question, comment nous, on peut apprendre quelque chose de cela pour nous-mêmes aujourd'hui ? Nous, qui sommes disciples de Jésus 2000 ans après, nous vivons en quelque sorte le même processus que ses premiers disciples ont vécu à ce moment-là. Et j'aimerais, en quelque sorte, appliquer ce que les disciples ont vécu en rencontrant Jésus à ce que nous pouvons vivre lorsque nous rencontrons Jésus encore aujourd'hui. Le processus, je crois, est sensiblement le même. Premièrement, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez ce que Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste ? J'aimerais vous le lire parce que c'est quand même fort. C'est dans Luc 7, verset 28. Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Autrement dit, Jean-Baptiste, c'était l'homme le plus grand, l'homme, on va dire, naturel, le plus grand de tous les temps. Et Jésus dit, mais il est plus petit que le plus petit dans le royaume de Dieu. Donc, celui qui appartient à Jésus, celui qui appartient à cette nouvelle alliance que Jésus est venu instaurer, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, on voit hein, cette transition entre Jésus et Jean qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas parce que ceux qui sont disciples de Jésus sont plus grands que Jean-Baptiste, mais c'est parce que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste que cela est rendu possible. Donc, premier élément, Jésus est plus grand en fait que le plus grand. Il est plus grand que tout. Et je crois que c'est ça la première étape pour le disciple aujourd'hui, c'est de réaliser que Jésus est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est plus grand que tout. Il apporte quelque chose de nouveau. Même le plus grand humain naturel ne peut pas arriver à la cheville de Jésus. Une fois qu'on a compris ça, il faut aller un pas plus loin pour comprendre que Jésus, il est venu avec une mission. Il est venu pour enlever le péché. Il est l'agneau, celui qui est venu se sacrifier pour enlever le péché du monde. Il est celui qui a été offert sur une croix pour nous donner sa justice et prendre sur lui notre péché. Il est celui qui a subi la condamnation, qui a subi la colère de Dieu sur cette croix. Il est celui qui a vaincu la mort, qui a accompli tout ce que Dieu avait voulu pour nous donner la liberté. Donc une fois qu'on a réalisé que Jésus est le plus grand, il faut qu'on réalise qu'il est celui qui enlève le péché. Puis à partir de là, il faut qu'on se laisse bouleverser. Il faut qu'on laisse nos vies être transformées. En acceptant ce message, il faut qu'on soit bouleversé, que de suiveurs, en quelque sorte, d'autre chose, nous devenions des suiveurs de Jésus-Christ, comme André, Pierre et ses autres disciples, qu'on commence à suivre Jésus, à devenir vraiment ses disciples. Et puis, finalement, dernier élément, on a le privilège, en tant que disciples de Jésus, d'être en relation directe avec Dieu, de connaître Dieu, de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Donc vous voyez cette logique un petit peu pour le disciple. Alors ce matin, il est possible que vous ne soyez pas disciple de Jésus. Il est possible que vous soyez, que vous ayez des questions, que vous ayez des interrogations. Et j'aimerais vous inviter à vous positionner là-dedans, dans ces quatre étapes. Est-ce que vous comprenez que Jésus est le plus grand, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même? Est-ce que vous comprenez qu'il est mort sur la croix pour enlever vos péchés? Est-ce qu'à cause de cela, vous êtes décidé à le suivre, à devenir ses disciples? Et est-ce que vous êtes joyeux, heureux de pouvoir accéder, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu parce qu'il est celui qui révèle le Père? Je crois qu'on est tous amenés, suite à ce texte, à nous poser ces questions, à nous positionner. Si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus, j'aimerais vraiment vous inviter à avancer dans ce cheminement. Si vous êtes disciple de Jésus, je crois que ce texte, il nous appelle justement à continuer de suivre Jésus, à persévérer, à être avec lui. Il nous appelle aussi à l'adoration, à la reconnaissance. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est le plus grand. Jésus ôte le péché. Jésus bouleverse des vies. Jésus révèle le Père. J'espère que ça c'est un petit peu comme un avant-goût pour cette série qui va suivre. Et on va voir dans les prochains dimanches, par bien des aspects, que Jean nous montre à quel point cette transition est énorme, à quel point cette transition est grandiose, à quel point Jésus amène une rupture avec la tradition. Je vais encore prier. Seigneur, on te remercie pour ce texte. On te remercie surtout pour Jean qui nous l'a transmis. On te remercie pour Jésus, ton Fils, lui-même Dieu, qui est rentré dans ce monde pour ôter le péché du monde. Merci pour ce sacrifice qu'il a accompli à la croix. Aide-nous à avoir ce réflexe de désirer le suivre, comme ses premiers disciples qui ont, en comprenant son identité, décidé de le suivre. Aide-nous à nous réjouir aussi de ce que Jésus nous révèle le Père et de ce que par lui, nous avons l'assurance de passer l'éternité auprès de toi. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.